Europe 1.
h 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre en cette journée spéciale Top Gun Maverick sur Europe 1. Et vous allez voir que notre émission s'inscrit parfaitement dans le thème. Bon, c'est normal, nul n'a jamais douté que nous étions une émission à grand spectacle, richement dotée niveau budget.
David Castel-Lopez qui remonte aux origines de la canette.
Comment fait la canette ?
Coin, coin.
L'occasion de constater qu'effectivement, comme nous le signalait habilement l'oreille absolue de la bande, David Castel-Lopez, le compositeur de la BO de Top Gun a tout piqué sans trop s'emmerder à...
Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu.
Vérification. Le monde est fou, David. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, historiquement vôtre, faites aussi la sortie sur les écrans de Top Gun Maverick. La suite donc, en réunissant ceux qui, comme Tom Cruise, alias Maverick, ont passé le mur du son sans trop se poser de questions.
Et comme Willy Denze aussi. C'est vrai qu'on en parle un peu moins que Top Gun en ce moment.
Aujourd'hui, on va aussi et surtout parler de celui qui l'a passé en tout premier le mur du son, officiellement en tout cas, le pilote Chuck Yeager, un Américain de 24 ans qui n'a pas tremblé, vous verrez. Puis, lui a passé de nombreuses fois le mur du son avec son physique si particulier. Ce n'est pas un personnage, quoique, c'est un avion, l'avion de ligne supersonique Concorde. Retour sur un avion mythique qui a mal fini. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un producteur de musique qui lui a carrément inventé le mur de son.
Oui Stéphane, aujourd'hui je vous raconte celui qui dans les années 60 a propulsé le rock dans une nouvelle ère en inventant une autre manière d'enregistrer les groupes avec un son plus immersif, l'inventeur donc du Wall of Sound, Phil Spector, un producteur légendaire pour une bonne raison et aussi pour une moins bonne. Je vous raconte
oui,
ça tout à l'heure.
Fini, hein. Il a
très mal fini, oui.
Et avec nous comme chaque jour, ils ne sont là que pour de bonnes raisons, eux. Ce sont nos chroniqueurs. Celle qui nous entraîne dans l'intimité des grands de ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais évoquer une femme célèbre qui a totalement perdu la voix. Nous l'avons d'ailleurs déjà évoquée ici. C'est la comtesse de Ségur. Donc, elle ne pouvait plus parler. Et puis, de temps en temps, elle franchissait le mur du son, retrouvant sa voix miraculeusement. C'était quelque chose d'étrange et psychosomatique. Et elle s'exprimait d'ailleurs avec une ardoise. Je vous raconterai ça tout à l'heure.
Avec nous également, David Castel-Lopez, qui remonte aux origines d'une invention qui, justement, habille merveilleusement bien le buste de Tom Cruise.
Exactement, c'est le Bombers, ce manteau. Alors, celui de Tom Cruise, il est en cuir. C'est pas exactement ce à quoi on pense en premier quand on pense à un Bombers. Il n'empêche, ça s'appelle aussi un Bombers. Donc, je vous ferai la généalogie des Bombers.
Est-ce que c'est à la mode aujourd'hui, le Bombers ou c'est...
Mais j'espère que vous nous direz quelque chose là-dessus, puisque c'est vous le prince de la mode.
C'est moi le prince de la mode. C'est dire le niveau de l'émission.
Votre avis compte en matière de mode.
Je pense que c'est revenu à la mode et que c'est reparti. Là.
Mais là,
je pense que c'est moins, voilà, ouais. moins tendance. Lui, il est toujours à la mode. Hein, c'est Olivier Pouls.
Et la mode de quand puisqu'on parle gastronomie avec Olivier Pouls. Aujourd'hui, de quoi parlons-nous ?
Eh bien, nous allons parler du ratafia. Vous avez l'habitude d'en boire
tous les matins. C'est alcoolisé, non ?
Non, ouais, c'est alcoolisé.
C'est
bien
la
sûr.
Boisson des marins, le ratafia.
Non, pas du tout.
C'est marseillais.
Alors, c'est pas marseillais non plus. Okay. Non, mais c'est une boisson qu'on connaît beaucoup dans les régions viticoles. En Champagne, en Bourgogne, on fait le ratafia.
Il y a un personnage de BD, de marin, qui boit du ratafia tout le temps. Ben, non, ça vous dit rien ?
Corto Maltese, j'en sais rien. Mais ça vient de quelle région ? Vous ne pouvez pas nous le dire déjà ? Ça déflore trop votre sujet ?
Ça a des origines probablement italiennes, mais aujourd'hui, les ratafias les plus connus, en tout cas, sont les ratafias de région bourguignonne, puisque pour faire du ratafia, en général, il faut du mou de raisin, il faut du jus de raisin.
Du mou de raisin. Nous verrons ça tout à l'heure, et puis nous jouerons évidemment avec l'histoire dans Bern to be Alive, le quiz qui permet chaque jour de départager Stéphane Bern de Clémentine Portier qu'elle. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il était surnommé l'homme le plus rapide du monde.
Jacques Chirac.
Ah non Stéphane, plus rapide encore et pas dans le même domaine. Lui était une légende de l'aviation américaine qui a marqué l'histoire en devenant le premier pilote à franchir officiellement le mur du son. Stéphane Bern serre sa ceinture, ajuste son casque et nous raconte Chuck Yeager.
In October 1947, at Murat Desert Test Center in California, history is made by this aircraft, the XS-1, and its pilot, Captain Charles D. Yeager.
Nous sommes dans le désert des Mojaves en Californie. Un paysage de bout du monde, un décor parfaitement plat au sol de sable, qui est en fait une piste d'atterrissage naturelle. C'est là d'ailleurs, accolé à un lac salé asséché, que se trouve la base aérienne de Muroc. En ce 14 octobre 1947, Muroc n'est pas encore la base mythique qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de base militaire d'Edwards, le temple incontesté des essais en vol américains, le berceau de bien des premières fois de l'aviation. Premier vol de la mythique fusée-avion X-15, premiers atterrissages de la navette spatiale américaine. Elle n'est pas encore mythique, mais ça ne va pas tarder. Car ce matin-là, à 10h18 précise, alors que la chaleur est encore supportable, dans ce grand erg de l'Ouest américain, Muroc va faire une entrée détonnante, c'est le cas de le dire, dans l'histoire. Une vingtaine de minutes plus tôt, un gros porteur, un Boeing B-29, a décollé de sa piste. Sous son fuselage est accroché un drôle d'engin, un petit avion en forme de balle de revolver, une sorte de missile muni de petites ailes et le nez prolongé d'une longue aiguille. C'est un avion expérimental, le Bell XS-1. Un engin né d'un contrat passé entre l'AAF, les forces aériennes des États-Unis, le NACA, l'ancêtre de la NASA, et le constructeur américain d'avions de combat Bell Aircraft. Son but ? Récolter des données sur les conditions de vol à vitesse transsonique, c'est-à-dire à une vitesse supérieure à celle du son, soit approximativement 1200 km/h, plus ou moins en fonction de l'altitude, ce qu'on appelle communément Mach 1. En effet, on avait remarqué à l'époque qu'en s'approchant de cette vitesse faramineuse, les avions militaires subissaient de très fortes turbulences, parfois même une perte de contrôle. Il devenait donc impératif d'étudier le phénomène en conditions réelles. Mais aucun avion jusqu'alors, en tout cas officiellement, n'avait jamais franchi cette frontière symbolique. Jamais jusqu'à ce jour-là. Car à bord du Boeing B-29 qui vient de décoller de Muroc, un pilote est bien décidé à réaliser cet exploit. Il n'en est pas à sa première tentative, oh non. Cela fait un peu plus de 2 mois que ce jeune intrépide de 24 ans enchaîne les vols d'essai. Il s'en est approché de près. Mach 085. Mach 092, Mach 0925. 4 jours plus tôt, le 10 octobre, il a même frôlé d'encore plus près. C'est aujourd'hui que tout va se jouer, tout le monde le sait, tout le monde le sent. À commencer par le jeune pilote, Charles Yeager, que tout le monde appelle Chuck. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'a pas prévenu ses supérieurs de ce qui s'est passé la veille. Lors d'une course à cheval, il s'est brisé les côtes. Mais pour lui, hors de question de renoncer à cette chance inouïe d'inscrire son nom dans les annales de l'aviation. C'est donc plié de douleur qu'à une altitude d'environ 1500 mètres, Chuck Yeager se glisse tant bien que mal depuis le ventre du Boeing B-29 dans l'étroit habitacle du Bell XS-1. Incapable de fermer seul le cockpit, il est même obligé d'appeler à l'aide un coéquipier. Mais ça y est, il est en place. Ne reste plus qu'à attendre le largage. 3000, 5000, 6000 mètres. Ça y est, le B-29 largue le XS-1. Qui fait d'abord une chute vertigineuse. Puis sans attendre, Chuck Yeager allume le puissant moteur fusée. Il le sait, il n'a que très peu de temps pour atteindre son objectif. À plein régime, l'engin a 2 minutes 30 d'autonomie à peine. Solidement harnaché, le pilote tire sur le manche et fait grimper l'appareil jusqu'à 13 000 mètres d'altitude. À mesure que la vitesse augmente, les vibrations se font plus intenses. Chuck Yeager commence à avoir l'habitude. Sans hésiter, il amorce alors un très léger piqué. Mach 0965. Dans le cockpit, tout tremble de plus en plus fort. Mais Chuck, plus déterminé que jamais, ne quitte pas l'aiguille du Mach-mètre des yeux. Elle ne bouge plus. Puis soudain, elle sort violemment de l'échelle graduée. Au sol, ceux qui attendent avec angoisse de savoir si la mission a réussi s'inquiètent d'entendre le bruit d'une gigantesque explosion dans le ciel.
And he does it. The first human to crack the sound barrier.
Ce bruit n'est rien d'autre que la preuve du succès du pilote. Lorsqu'un avion vole à une vitesse proche de celle du son, les vibrations qu'il émet se superposent à l'avant de l'appareil pour former une énorme onde de choc. Chuck Yeager y est arrivé. Les instruments montreront qu'il a atteint la vitesse de Mach 1.06. L'homme le plus rapide du monde sera désormais son surnom. Bon, dans les faits, ce n'est pas tout à fait exact. Il semble que Chuck Yeager n'ait pas été le premier homme à atteindre cette vitesse symbolique. Plusieurs l'auraient franchi avant lui. Mais tous par accident et tous à l'occasion d'un piqué vertigineux et non d'un vol horizontal. Le tout premier à l'avoir franchi sans y laisser la vie serait un ancien pilote de la Luftwaffe, un certain Hans-Guido Mütke. L'épisode aurait eu lieu en avril 1945 à l'occasion d'un vol d'entraînement et d'un piqué vertigineux. Avril 1945, 2 ans avant Muroc donc, à cette époque, Chuck Yeager, quant à lui, vient de rentrer d'Europe où il a fait la guerre. Dans l'autre camp, bien sûr, celui des Alliés.
C'est mieux.
C'est la guerre qui a fait de lui un pilote. Né le 13 février 1923 dans la petite localité de Mira, en Virginie-Occidentale, Chuck est un gamin curieux et doué de ses mains. Mais issu d'un milieu plutôt modeste, il ne fait pas de longues études. Sans diplôme universitaire, il ne peut pas prétendre à une formation de pilote. Alors, après le lycée, à l'âge de 18 ans, c'est en qualité de mécanicien qu'il s'engage dans l'armée américaine. Nous sommes alors en septembre 1941. L'attaque de Pearl Harbor, 2 mois plus tard, va changer son destin. Entré en guerre, les États-Unis assouplissent les conditions d'accès à la formation de pilote. L'opportunité d'une vie pour Chuck Yeager. Lui qui rêve de servir son pays saute sur l'occasion de devenir un héros. Dans un premier temps, l'expérience n'est pas très concluante d'ailleurs. Car lorsque Chuck monte pour la première fois dans un avion, en janvier 1942, le jeune homme qu'il est alors vomit toutes ses tripes. Mais pas de quoi le décourager encore une fois. À peine plus d'un an plus tard, Yeager obtient son diplôme de pilote. Puis en novembre 1943, il rejoint le front de la guerre en Europe. Posté en Angleterre dans les rangs de la Royal Air Force, il n'a le temps d'abattre qu'un seul avion ennemi avant que le sien ne soit lui-même abattu au-dessus de la France en mars 1944. S'ensuit pour lui une fuite vers l'Espagne avec l'aide de maquisards, puis un rapatriement vers l'Angleterre juste avant le débarquement des Alliés en Normandie. Bien décidé à rattraper le temps perdu, Chuck Yeager s'illustre dès lors comme un pilote hors pair. Le 12 octobre 1944, alors que les Alliés tentent une percée vers l'Allemagne, il abat 5 avions nazis le même jour. Grâce à lui, ce sont en tout 13 avions de la Luftwaffe qui subiront un sort funeste durant la guerre. Rentré au bercail en février 1945, Chuck épouse sa petite amie Glenys Dickhouse et accepte un poste de pilote d'essai. Un poste qui l'amènera un peu plus de 2 ans plus tard à franchir le mur du son, ce fameux 14 octobre 1947. Il n'a alors que 24 ans, rappelons-le. Ce fameux Mach 1 sera loin d'être son record de vitesse. En décembre 1953, il parvient à pousser son appareil au-delà de Mach 2, soit 2 fois la vitesse du son. Yeager passe ensuite le reste de sa carrière au sein de l'armée de l'air américaine, en qualité de colonel puis de brigadier général, participant notamment à la guerre du Vietnam. Une frontière lui résistera pourtant toujours, celle de l'espace. Faute d'un bagage universitaire, il ne sera jamais autorisé à rejoindre le corps des premiers astronautes, à son grand regret. Ce regret, il aura l'occasion de l'exprimer au cinéma dans L'étoffe des héros de Philip Kaufman, sorti en 1983. D'abord au travers de l'acteur Sam Shepard qui joue son rôle dans le film, mais aussi de sa propre voix. Peu le savent, mais le véritable Chuck Yeager tient un rôle dans le film. Il y campe un serveur, un tout petit rôle clin d'œil, mais qui lui donne l'occasion d'une réplique éloquente. Une réplique constatant avec consternation qu'un des aviateurs les plus doués du film a été privé d'espace, mais pas de postérité. Tout comme lui. Car Chuck Yeager, décédé il y a 2 ans à peine, à l'âge canonique de 97 ans, est resté dans l'esprit des Américains comme l'un des plus grands aviateurs de l'histoire.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Chuck Yeager, nous sommes Stéphane avec un journaliste qu'il connaît bien. Bonjour Michel Polaco.
Bonjour tous les deux. Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane.
Bonjour Michel Polaco, vous êtes journaliste spécialisé en aéronautique, mais aussi pilote et auteur de nombreux livres sur l'histoire de l'aviation. Au moment où Chuck Yeager s'élance à bord du Bell XS-1, nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette période de conflit a permis de développer énormément l'aviation militaire.
Oui, l'aviation militaire s'est considérablement développée pendant la guerre de 39-45, comme ça avait d'ailleurs été le cas pendant la guerre de 14-18, c'est-à-dire qu'au début de la guerre de 1939, on avait des avions qui allaient jusqu'à 400-450 km/h. Je parle des avions de combat, bien sûr, et qui étaient des avions finalement relativement lents, qui ne montaient pas très haut, qui avait des performances assez limitées, mais enfin bon, c'était la même chose dans les deux camps, donc c'était pas un problème particulier, simplement chaque camp voulait avoir la suprématie sur l'autre. Donc tout le monde a fait des travaux, il y a eu des travaux en Grande-Bretagne, notamment avec les inventions de Frank Whittle, qui avait inventé un modèle de turboréacteur, il y a eu des travaux en Italie, des travaux en Allemagne, et on sait que pendant la durée de la guerre de 39-45, les Allemands ont développé 2 avions de combat à réaction qui donc ont permis d'aller à des vitesses beaucoup plus élevées que les avions à hélice Jusque-là, c'est le Henkel HE-178 qui a commencé à voler en 1939 mais qui n'a été opérationnel qu'au milieu de la guerre de 39-45 et le Messerschmitt 262 dont d'ailleurs un exemplaire a été abattu par Chuck Yeager. Donc on était passé de l'avion à hélice à 400-500 km/h à l'avion à hélice qui allait quelquefois jusqu'à 600-650 km/h, mais surtout à l'avion à réaction qui arrivait à dépasser les 700 km/h.
Et Michel, en 1945, on en est bien au balbutiement de l'avion supersonique. C'est une technologie qu'on découvre quand et quand est-ce qu'on commence à s'y intéresser vraiment de près ?
Alors en fait, tout a commencé en France en 1865, dans l'Aveyron, où Charles de Louvrier, à Campouriaise, a inventé la tuyère thermopropulsive. Ensuite, il y a eu des travaux qui ont été menés en France par Charles Lorrain, il y a eu des travaux en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Et on a développé, notamment avec René Leduc en France, le statoréacteur, qui permettait d'aller beaucoup plus vite, mais qui devait être largué depuis un avion. Et puis, pendant la guerre de 39-45, les premiers appareils très rapides ont été les V2, les missiles balistiques allemands, qui, eux, arrivaient à franchir la vitesse du son, mais c'était des missiles balistiques, et au bout de ces missiles, il n'y avait que des charges explosives. Il n'y avait pas de passagers ni de pilotes. Et donc, pendant la guerre de 39-45, quand on a terminé la guerre, il y avait simplement quelques pilotes d'avions à hélice qui, lors de piquets, avaient frisé la vitesse du son et parfois avaient plus ou moins détruit leurs avions quand ils ne les avaient pas carrément détruits. Donc on était vraiment incapable, véritablement, de franchir la vitesse du son avec un avion. Il y avait des phénomènes d'inversion de commande de vol qu'on ne savait pas maîtriser, qu'on n'avait d'ailleurs pas vraiment analysé. Et puis la structure des avions, l'aérodynamique des avions ne le permettait pas.
Je l'ai rappelé dans mon récit, avant Chuck Yeager, plusieurs pilotes essayent sans succès de passer ce fameux mur du son ou alors le font de manière tout à fait fortuite. Quels sont les défis à prendre en compte pour passer avec succès le mur du son au niveau technique d'une part et physique d'autre part ?
Alors sur le plan technique et physique, pour passer le mur du son, d'abord il fallait comprendre les phénomènes de compressibilité de l'air autour de la carlingue de l'avion, ce qui est un élément fondamental. Deuxièmement, il fallait disposer d'une puissance suffisante. C'est ce que va fournir le turboréacteur. Troisièmement, il fallait avoir une très bonne aérodynamique, adaptée aux circonstances, avec des commandes de vol qui soient capables de résister à des variations de pression importantes. Et évidemment, l'hélice était un phénomène très gênant pour passer le mur du son, aujourd'hui encore, sur les avions, sur les hélicoptères, la longueur des hélices ou le nombre de tours auxquels on les fait tourner est directement liée au fait qu'il ne faut pas que le bout des pales arrive à vitesse supersonique. Donc il a fallu l'avion à réaction équipé d'un turboréacteur ou l'avion fusée, ça va être le cas du Bell X1, pour arriver avec une bonne aérodynamique et des commandes de vol mieux adaptées à franchir le mur du son.
Après tout ce qu'on s'est dit avec Stéphane, et le thème de notre émission c'est « Ils ont passé le mur du son sans se poser de questions », est-ce que Chuck Yeager, justement, il ne s'est pas posé de questions ou il s'en est posé beaucoup avant ce fameux vol ? On l'a répété à l'époque, on ne savait pas trop ce qui allait se passer au moment où on passait le mur du son. On savait que les commandes en prenaient un coup, on savait que c'était quand même très risqué. Il avait conscience de peut-être risquer sa vie ou pas, ou il était insouciant ?
Alors, vous savez, à l'époque où Chuck Yeager a passé le mur du son, on n'avait pas de simulateur de vol. Donc, c'était les pilotes qui, en vol, sans d'ailleurs liaison radio de transmission de données, comme c'est le cas aujourd'hui, faisaient les essais. Et quand ils revenaient vivants et que l'avion était complet, on disait que l'avion était bon. Et puis si, en revanche, on n'avait plus de nouvelles de l'avion, eh bien, quand on avait ramassé l'épave, on analysait l'épave et on essayait de comprendre ce qui s'était passé. Si, par chance, le pilote avait sauté et qu'il était vivant, on avait en plus son témoignage qui n'était pas obligatoirement suffisant pour comprendre tous les phénomènes aérodynamiques. Donc il est bien vrai que Chuck Yeager, lorsqu'il est largué avec le Bell X1 à partir d'un avion largueur, donc, il sait très bien qu'il prend des risques, il sait très bien qu'il y a des phénomènes qui jusque-là ont posé de vrais problèmes. On a compris qu'il faut des formes adaptées. D'ailleurs, on a copié la balle de 12-7 pour donner la forme à son avion-fusée, le Bell X1. En dehors de ça, il y a beaucoup d'incertitudes. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir aussi des efforts assez importants à vivre et à subir. C'est ce qui va être le cas. Il y a des vibrations terribles. Et puis, d'un seul coup, lorsque le mur du son est franchi, généralement, il y a une période d'accalmie. dans cette phase transsonique. Et donc, il a été le premier à vivre ce moment et à passer Mach 1.06. Mais il faut reconnaître que jusque-là, il y avait eu pas mal de tentatives, pas mal d'avions abîmés en vol. Et que donc, quand il est parti, il savait que... D'abord, il avait un parachute et il savait que sa première chance, c'était éventuellement, si son avion se dégradait pas trop en vol, de pouvoir sauter si ça se passait pas bien.
Mais comment il a été choisi pour réaliser cette mission ? Parce que c'était l'un des meilleurs pilotes de l'équipe ? Parce que j'imagine, la concurrence devait être rude. Il y en a plein d'autres qui auraient voulu être à sa place.
Alors, je ne sais pas si on doit parler en termes de concurrence. Vous savez, le meilleur pilote, c'est celui qui revient vivant. ils ont été plusieurs à faire des tests sur des avions différents à cette période. Et c'est vrai que Chuck Yeager est celui qui a été choisi pour faire les quelques tests dont on a parlé avec le Bell X1 et dont celui qui s'est terminé par le passage du mur du son. Mais il y en a eu plein d'autres après, et pas seulement Chuck Yeager. Lui, il a été... The first, il a été le premier. Est-ce que c'était le meilleur ? Ben, on va dire oui, parce qu'il est revenu vivant et il a réussi. Voilà, vous savez, un bon pilote, c'est un vieux pilote.
Chuck Yeager, on l'a dit, il n'a pas fait d'études pour devenir pilote et puis pourtant, il est devenu une légende de l'aviation. C'est aussi ça qui a contribué au mythe, l'image d'un self-made man avec une bonne dose de courage et puis c'est tout ?
Alors, ce n'est pas obligatoirement le fait que ce soit un self-made man qui a contribué au mythe parce que, en ce temps-là, c'est-à-dire avant-guerre et pendant la guerre, bien des pilotes ne sont pas passés par des grandes écoles de formation et de pilotage. Vous savez, on envoyait au feu en Europe, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, et puis même les Américains, des gens qui avaient quelquefois 20 ou 30 heures de vol, ce qui est extrêmement peu. Aujourd'hui, avec ça, on fait un pilote privé, on ne fait pas un pilote de guerre. Aujourd'hui, un pilote de guerre a des dizaines et des dizaines d'heures d'entraînement. Donc non, c'était relativement classique. Maintenant, c'est vrai que c'était juste adapté aux besoins qui étaient d'envoyer des avions avec des mitrailleuses, des bombes ou des moyens d'observation jusque chez l'ennemi ou accompagné des convois de bombardiers. Et on savait qu'on envoyait des milliers d'avions. Vous vous souvenez, pendant la guerre, c'était des convois de milliers d'avions entre les bombardiers, les chasseurs de protection, etc. Et on savait très bien qu'il y avait des dizaines, parfois des centaines qui ne reviendraient pas. Donc on était dans un autre temps. Et c'est vrai que quand on est passé à l'espace, on a changé complètement de paradigme.
J'ai parlé du film L'étoffe des héros, dont on va écouter d'abord un extrait de la bande-annonce.
Le 14 octobre 1947, le capitaine Charles Yeager perce le mur du son et propulse l'homme dans le futur. Alors, le monde se met en quête d'une nouvelle race d'hommes, des hommes qui ne connaissent pas la peur.
On vous a parlé du projet ?
C'est très dangereux.
Terriblement dangereux.
Comptez sur moi.
Le film dit donc que Chuck Yeager propulse l'homme vers le futur. Selon vous, Michel Polacco, il y a un avant et un après Chuck Yeager pour l'aviation ?
Oui, il y a un avant et un après Chuck Yeager, c'est bien évident. Comme il va y avoir un avant et un après Armstrong, Aldrin et Collins, c'est bien évident. Le mur du son, c'était vraiment un moment dans l'histoire de l'aéronautique. Quand on a passé Mach 2, ça a beaucoup moins intéressé. Chez nous, vous vous souvenez peut-être, c'était Glavany, c'était André Turca. Bon, bah, personne n'en a gardé un souvenir immuable. Par contre, l'homme sur la Lune, le premier homme qui a mis le pied sur la Lune, le second ou le troisième qui était autour, Collins, et qui les attendait, ça a été aussi une date. Bon, voilà, il y a eu des dates. Chuck Yeager, c'est une date.
Chuck Yeager, il est mort en décembre 2020, à 97 ans. Vous avez rencontré des gens qui l'ont connu. Quel souvenir garde de lui ?
Alors, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont connu Chuck Yeager. Vous savez d'abord qu'il venait régulièrement en France pour remercier, célébrer l'aventure terrible qu'il avait vécue lorsqu'il a été abattu dans le ciel de France, à Romestin, dans le Lot-et-Garonne. Vous savez qu'il a été recueilli par une famille qui ensuite l'a mis entre les mains de la résistance et il a pu passer par l'Espagne et retourner se battre. Donc, à ce titre-là, déjà, il est venu. Et puis, Chuck Yeager a volé à bord du Concorde. Il est venu en 2008 en France. Il a volé à bord de l'Airbus 380. Donc, avec tout ça, il a rencontré pas mal de Français. Il a commandé la base aérienne de Toul, qui était à l'époque une base américaine du temps où la France était dans le commandement intégré de l'OTAN, ce qui est à nouveau le cas depuis 2007, mais ce qui n'était plus le cas depuis 1964 avec De Gaulle. Donc, si vous voulez, il a rencontré beaucoup de gens en France, il a rencontré beaucoup de militaires, il a rencontré beaucoup de pilotes d'essai, il a rencontré beaucoup de Français du Lot-et-Garonne et d'anciens résistants ou de descendants d'anciens résistants. Donc oui, j'ai rencontré des gens qui ont connu Chuck Yeager. Personnellement, je ne l'ai pas rencontré.
Vous avez participé à plusieurs conférences sur l'avenir des avions supersoniques. En tant que spécialiste de l'aviation, Michel, va-t-on pouvoir imaginer un jour rallier Paris et New York en 3 heures? Et si oui, quand?
Ça manque, et ça manque beaucoup à Stéphane.
Non, pas du tout.
Petite virée shopping à New York.
Non, c'est pas du tout mon truc.
Ben, je vous comprends très bien, parce que moi, j'ai écrit un livre sur Concorde au Cherche Midi qui raconte cette épopée du Concorde. Et moi-même, j'ai pris beaucoup l'avion Concorde. Je crois que je dois avoir une centaine d'heures de vol à bord. J'ai été à bord d'un Concorde qui avait fait le record du monde de vitesse autour de la Terre en 1992. Enfin bon, voilà, c'est mon avion chéri. J'en connais évidemment beaucoup d'équipages techniques, commerciaux. Enfin, j'ai plein de souvenirs avec cet avion et j'en ai une grande nostalgie. J'ai vécu douloureusement l'accident du 25 juillet 2000 au cours duquel un appareil s'est écrasé, vous savez, à côté de Roissy au décollage à Garges-lès-Gonesse. Et puis, bon, la renaissance lorsqu'il est reparti en vol en novembre 2001, juste après les attentats du 11 septembre, où nous avions été accueillis d'une manière extrêmement émouvante et chaleureuse par M. Giuliani, qui était le maire de New York dans cette ville qui était sinistrée. Donc, si vous voulez, Concorde, beaucoup de chaleur, beaucoup d'affection. Et puis en 2003, on l'a arrêté. Il avait presque 30 ans d'âge. C'était la deuxième guerre du Golfe. Il y a eu une crise du pétrole, une crise du nombre de passagers aussi. Et donc, Concorde commençait à être désuet, même si c'était l'avion le plus rapide du monde. Depuis, tout le monde rêve de refaire Concorde. Mais je vais vous dire, on ne refera pas Concorde. Et on ne refera pas Concorde parce qu'un avion, c'est de l'environnement, c'est de l'économie et c'est de la sécurité. Alors, la sécurité, on sait la faire. Refaire un Concorde comme il était, on saurait le faire. Un peu mieux, on saurait le faire. Beaucoup mieux, on ne saurait pas le faire. Et notamment dans deux domaines. Dans le domaine de l'environnement, parce que ce sont des avions bruyants. Ce sont des avions qui consomment beaucoup de carburant. Et donc, en termes d'environnement, un Concorde n'a pas de sens. Et deuxièmement, en termes d'économie, les gens qui prennent des avions pour aller à New York ou pour aller autre part, évidemment, ils préfèrent mettre 3h30 que 7h30, etc. Mais d'un autre côté, la différence de prix est telle. Aujourd'hui, on est dans le temps des low cost. On n'est pas dans le temps des avions dont le prix du billet correspond à des sommes presque astronomiques. Quand Concorde a cessé de fonctionner, le prix du billet aller-retour pour New York était de 7 000 €. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez un New York pour 280 € sur certaines compagnies low cost. Donc, je pense que pour ces raisons d'environnement que nous ne savons pas résoudre, pour ces raisons d'économie que nous ne savons pas résoudre, l'avion que nous saurions faire sûr, comme on l'a déjà fait une fois, on ne le fera pas. Et tous les essais qui sont faits actuellement, c'est surtout dans le cadre de la NASA, pour arriver à découvrir comment on pourrait camoufler le bang supersonique des avions supersoniques, et deuxièmement, pour se préparer pour le cas où, un jour, on aurait un système de propulsion qui serait plus économe et moins bruyant.
Et vous restez avec nous, Michel Poirot, parce que tout à l'heure, on va parler avec Béatrice Vial, qui a été la seule femme pilote du Concorde dans la deuxième partie de l'émission.
Que je connais bien, et transmettez mon bonjour à Béatrice.
Oui, volontiers.
Merci beaucoup Michel Polaco d'être venu avec nous sur le parcours incroyable de ce pilote qui a franchi le mur du son sans se poser de questions, qui s'est fait un nom de légende. Je rappelle aussi votre ouvrage « Histoire de l'aviation » coécrit avec Gérard Feltzer, Karl Werner et Stephen Woolford, paru chez Grunt. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16 heures, Historiquement vôtre, je vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires en haussant parfois la voix. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, elle ne pouvait pas faire comme vous. Eh oui, la comtesse de Ségur et son larynx étaient aux abonnés absents.
Et oui, Stéphane, vous nous avez déjà brossé le portrait dans cette émission de la comtesse de Ségur, mais peut-être n'aviez-vous pas précisé ce douloureux épisode de son existence, celui pendant lequel elle n'a plus parlé. Vous imaginez ce cauchemar, hein ? Donc, juste en quelques mots, on sait que la comtesse de Ségur a fait un mariage extrêmement décevant avec un homme qui la trompait effrontément, et notamment avec de très jolies femmes comme Olympe Pellissier, qui était l'un des modèles du peintre Horace Vernet. Alors, c'est difficile d'être en concurrence avec un joli modèle de peintre, et surtout lorsqu'on est enceinte, constamment. Elle passait sa vie à être enceinte, la comtesse de Ségur. Il lui a fait quand même 8 enfants, son mari. Donc, il passait de folles nuits à Paris, et entre deux nuits blanches, il allait quand même assurer sa dynastie, si l'on peut dire. Sophie Rostopchine, donc la comtesse de Ségur, accouche à 36 ans, en 1835, du dernier de ses 8 enfants. En résumé, ses premières années de mariage, ses grossesses à répétition, tromperie de son mari, une belle-mère avec laquelle elle ne s'entend pas du tout, et surtout l'isolement dans son château des Nouettes, un château qu'elle a choisi et qu'elle aime. Enfin, elle se retrouve un peu prisonnière de cet endroit. Alors elle sombre dans une grosse dépression et une étrange maladie qui lui provoque un blocage du larynx. Si ce n'est pas une maladie psychosomatique, ça, comme le poète Mallarmé qui est mort d'un spasme de la glotte, c'est un truc qui n'arrive jamais. Alors elle ne peut plus parler. Et en 1838, au cours d'une scène de ménage épique avec son mari, auquel elle le reproche de découcher sans cesse, sa voix revient. Alors là, elle se met à hurler, à vociférer, elle donne des coups de pied dans les meubles et puis hop, son larynx se bloque à nouveau. Et dès ce moment-là, elle ne peut plus communiquer avec son entourage qu'avec une ardoise. Alors aujourd'hui, je pense quand même qu'un psy nous dirait qu'à force de tout retenir, de ne rien exprimer de sa détresse, elle a fini par somatiser, elle ne peut plus pouvoir rien dire. Alors elle passe ses journées languissantes, allongée sur une chaise longue, et ses nuits à chercher le sommeil. Elle souffre en outre d'épouvantables migraines, de douleurs vertébrales, quand elle n'est pas purement et simplement paralysée des membres supérieurs. On ne parvient pas à la soulager. Son fils aîné Gaston écrit de longues, de dures et très dures souffrances qu'un absurde médecin ne sut qu'aggraver l'obligèrent à rester étendu sur un lit de douleur pendant plus de 13 ans quand même. Tout le monde au château des Nouettes vit au ralenti et doit observer le plus grand silence pour ne pas déranger la malheureuse malade. Cette fois, voici ce qu'écrit Olga, la plus jeune. « Les jours de migraine de notre chère maman, les Nouettes devenaient une succursale de la trappe pour le silence. Notre bien-aimée malade ne pouvant supporter le bruit. On allait et venait dans le corridor sur la pointe des pieds. La parole devenait un souffle et se faisait rare lorsqu'on entrait chez notre bonne mère pour savoir de ses nouvelles. Quelle peine alors de la voir livide, les yeux éteints, le front couvert d'une sueur froide, le visage décomposé par la souffrance. Elle pouvait à peine articuler une parole malgré son courage. » Drôle d'année passée par la comtesse de Ségur à son château des Nouettes recluse, avec son ardoise et son stylo, qui ne la quitte jamais, parce que ce qui est très étrange dans sa maladie, c'est que sa voix fait des allers-retours, en fait. Et évidemment, c'est très indexé sur son moral. Par exemple, quand son fils chéri, Gaston, revient des vacances, sa voix revient. Et qu'il reparte pour Rome, eh ben hop, la voix disparaît. Et elle se mure à nouveau dans le silence. La nuit, il lui arrive d'écrire rageusement sur son ardoise, ça doit faire des petits bruits sur l'ardoise. Elle écrit rageusement le nom de son mari qu'elle ne parvient pas à dire. Ça doit être extrêmement frustrant. Elle enrage, mais elle enrage par écrit. Et parfois, elle écrit aussi son nom sur l'ardoise, mais son nom en russe, son nom de jeune fille, non pas son nom d'épouse bafouée, Sofia Féodorovna Rostopchine. Quand ses enfants commencent à faire leur vie, elle va un petit peu mieux. En 47, son Gaston est ordonné prêtre. Bon, alors là, elle retrouve complètement la voix. Elle se remet même à chanter. Peut-être qu'elle est complètement guérie. Et finalement, la renaissance viendra. Donc, c'est pour ça que c'est très probablement une maladie psychosomatique, cette perte de voix, grâce à son mari. Parce que c'est quand même son mari qui était le patron des chemins de fer de l'Est. Il a été sollicité par Louis Hachette, qui voulait créer une bibliothèque de la SNCF. En fait, il voulait créer une sorte de bibliothèque de romans de gare, si vous voulez. Et c'est là que le comte de Ségur a dit « Mais ma femme écrit des contes qui sont pas mal et ça serait tout à fait idéal pour cette bibliothèque. » Et c'est comme ça qu'elle a commencé à écrire ses premiers livres. Alors après, on le sait, elle a écrit sans relâche pendant 17 ans jusqu'à sa mort, publié 25 ouvrages. Elle va même se battre pour toucher ses propres droits d'auteur, parce qu'à l'époque, une femme n'avait pas le droit de gérer sa propre fortune et de toucher de l'argent. Donc elle va obtenir ça de haute lutte. Et voilà comment la comtesse de Ségur a trouvé sa voix, mais sa voix VOIE. Voilà une femme qui passa des années à Faune, mais dont on a pu dire que dans ses livres, elle parlait enfant comme on parle le français. C'est joli. Beau cette phrase, oui. Madame de Ségur.
Merci beaucoup Clémentine.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'histoire et son gagne-pain, le rap. Et sa passion.
Nique tes morts sur le vieux port.
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 Oui, son flow est impressionnant, mais sa culture ne l'est pas moins. Je vous propose, Clémentine, de nous le démontrer en jouant à Bern to be alive. Stéphane, la première question est pour vous. Commençons ce quiz dans le burlesque et l'absurde. En 1955, Salvador Dali fait une conférence sur l'art contemporain à Sciences Po. Il arrive en Rolls-Royce blanche, prononce son discours et puis finit par faire des autographes. Mais comment ? Sur les habits de ceux qui désirent un autographe, des étudiants, sur un chou ou sur des sucettes ?
En quelle année ?
En 51.
55.
Ah. 55. Je ne crois pas qu'il l'ait fait sur les habits.
Ce serait presque banal pour des...
Oui, ce serait banal.
Alors, sur un chou ou sur des sucettes ?
Alors, pourquoi le chou aurait été là ?
C'est une bonne question, oui. Ah, il y a un jardin, c'est rue Saint-Guillaume, il y a un petit jardin.
Oui, il n'y a pas de chou à l'époque. Il n'y a pas de chou, je dirais plutôt les sucettes.
Et les sucettes. Vous avez...
Aussi étrange que ça puisse paraître, non, c'était sur des choux. D'où venaient les choux ? J'en ai aucune idée, ce n'est pas l'information, mais il était venu avec des choux, visiblement, dans le coffre de sa Rolls. Même si c'est Dali qui sera l'inventeur du design de la célèbre sucette Choupa Choups, 3 ans plus tard.
Oui. Ah, saviez, ça ? C'est pour ça !
Question numéro 2 pour vous, Clémentine. À Kaliningrad, en 1867, va naître Eugène Sandeau. Il va passer son enfance en Italie, puis va devenir pionnier dans son domaine. Mais quel est son domaine ? Est-ce que ça sera le premier culturiste ? Le premier à faire fortune dans la cocaïne ou le premier à se suicider depuis la Tour Eiffel ?
Comme ce nom me dit quelque chose.
Eugène Sandeau.
Eugène Sandeau.
Ça s'écrit comment ?
S-A-N-D-O-W.
Ah,
alors peut-être qu'on prononce Sandoff, peut-être. Sandow. Kaliningrad, oui, on devait dire.
Donc il aurait été le premier à soit consommer de la cocaïne.
Non, à faire fortune.
À faire fortune dans la cocaïne.
Ou alors le premier à se suicider depuis la Tour Eiffel ou le premier culturiste de l'histoire.
En Italie.
Alors, il a passé son enfance en Italie et la suite...
Écoute, et le premier suicide de la Tour Eiffel, Eugène Sandeau. Moi, je veux dire le premier culturiste, parce que le reste ne me dit rien.
Vous avez gagné.
Le bodybuilding n'a pas de secret.
Ouais,
pour Clémentine Portier-Kaltenbach, Eugène va vivre son enfance en Italie. Comme je l'ai dit, il tombe d'admiration devant les statues romaines. Il va devenir la star des spectacles de force. Il va chercher une véritable esthétique musculaire. Il est le premier à faire ça. Tenter de sculpter son corps, d'où le nom bodybuilding. Il se produira même à l'exposition universelle de 1893 à Chicago. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Au XVIIIe siècle, les condamnations pour blasphème sont rares. C'est pourtant ce qui arrive au chevalier de la Barre en 1766. On lui reproche d'avoir recouvert d'excréments un crucifix. Normalement, la sanction est la suivante. Ça va vous plaire. Langue arrachée, décapitation, et puis on est brûlé vif. Dans cet ordre. Est-ce qu'il aura droit à tout ça, le chevalier de la Barre ?
Je crois pas, non.
Il n'a pas été pendu, tout
non,
simplement.
Non, on l'a tué comme ça. Ouais. Non, il n'a pas eu ce droit à ça.
On l'a tué comme ça. Il vient là.
Non, on ne lui a pas arraché la langue.
Vous avez gagné.
Eh oui, le chevalier de la Barre est un chanceux. Hein ? Seule sa langue, en fait, sera sauve. On a longtemps cru que Louis XV allait exercer un pouvoir de grâce, mais non, il sera torturé le matin, puis décapité et brûlé l'après-midi. Finalement, le bourreau renoncera effectivement au supplice de la langue arrachée. Au grand dam de Stéphane. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Louis le Sauteur fut un comte allemand né en 1042, fils de Louis le Barbu, bien sûr. En version originale, on l'appelait Ludwig der Springer. On l'a appelé le sauteur car il était victime d'un spasme régulier qu'il a eu à partir de la trentaine jusqu'à la fin de sa vie. Apprécié de ses sujets, il inquiétait tout de même à cause de sa maladie. Vrai ou faux ? Louis le Sauteur. Vous connaissez
alors,
Stéphane
Louis
Ludwig der Springer ?
C'était en quelle année ?
1042.
Au 11e siècle, Ludwig le Sauteur.
Et il était dans le seigneur de quelle principauté allemande ?
Bon, on ne sait rien. De Bavière, certainement.
Ah oui.
Non, j'en sais rien.
Écoutez, Der Springer, pourquoi est-ce qu'il aurait sauté quoi ? Est-ce qu'il sautait à cheval ? Est-ce qu'il sautait...
On vous dit qu'il avait des...
Oui, il avait un syndrome, Gilles de la Tourette.
Et
comme il faisait des gestes comme ça.
Oui.
Écoutez, pourquoi pas. Je pense qu'à l'époque, on n'était pas en état d'identifier exactement ce dont il s'agissait et qu'on lui ait donné ce sobriquet, why not. Je réponds oui.
Vous avez perdu.
Ah, vous avez perdu.
Alors,
on l'appelait le sauteur pour une autre raison, car il avait poignardé Frédéric III. Eh oui. Arrêté et incarcéré dans un château à Halle, il s'échappe, saute dans la rivière de la Salle
magnifique.
Et s'enfuit. Un serviteur l'attendait avec un bateau et son cheval. La légende de Louis le Sauteur était née.
Eh bien, j'ignorais cette légende.
Vous l'ignoriez. Maintenant, préparez-vous et préparez vos petits neurones pour la question 5. Je voudrais évoquer une reine. Au XVIIe et XVIIIe siècle, elle a mené son peuple avec clairvoyance et courage contre les armées portugaises. Son royaume, le Ndongo et le Matamba. Aujourd'hui, ces deux territoires se situent en Angola. Alors que les Portugais ont assassiné son frère, elle va signer un traité de paix avec eux. Quel était le nom de cette reine courage dont je vous parle ? Trois propositions. Véronique, Madeleine ou Valérie ?
Madeleine, je dirais.
Stéphane ? Vous connaissez moins bien. Hein,
Valérie.
Valérie d'un côté, Madeleine de l'autre. Je vous donne l'opportunité.
Véronique.
Oh oui, Stéphane. Oui. Il connaît toutes les dynasties, même en Angola. C'est stupéfiant.
Stéphane,
Véronique
bravo.
Première du Matamba. D'ailleurs, sachez que quand elle est morte en 1721, c'est son fils qui lui succède. Son fils, c'était... Attention, remets les compteurs à zéro. Qui était son fils ? Alphonse, Raoul ou Jean ?
Alphonse,
c'est Clémentine qui remporte le quiz question surprise, une innovation aujourd'hui dans le quiz. Le petit piège final, et c'est Alphonse Ier. Bien, vous avez dit au hasard ou vous aviez une petite idée ?
Non, pas du tout.
Le Portugal, Alphonse
Ier d'Angola.
Portugal, ils
s'appelaient
tous Alphonse Manuel.
On avait une chance sur deux. Ouais. Bravo Clémentine, vous avez gagné sur le fil.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, une émission de haut vol, surtout aujourd'hui Mathieu.
Oui Stéphane, puisque pour fêter la sortie demain en salle de Top Gun Maverick, un film européen, on murmure même qu'on aurait financé le film à hauteur de 70%, on réunit ceux, oui, comme Tom Cruise, qui ont passé le mur du son.
Et sans se poser de questions.
Je reconnais bien là Stéphane, l'esthète Stéphane le mélomane.
Après Chuck Yeager, je vous raconte l'histoire de celui qui est devenu un personnage à part entière, le Concorde. Lui aussi a passé le mur du son sans se poser de questions. Bon, avant de connaître quelques déboires, puis carrément de disparaître.
À votre grande dame Stéphane, on en parlait tout à l'heure, vous qui pestez sans cesse que mettre 8 heures pour aller faire du shopping à New York, c'est vraiment enquiquinant.
Les temps ont bien changé.
Quant à moi, je vous parle d'un autre type qui a fait mieux que franchir le mur du son, il l'a carrément inventé. Phil Spector, l'inventeur du son qui bouleversa le rock et la pop et qui a malheureusement très très mal fini, vous verrez.
Sans oublier nos chroniqueurs, qu'un seul son suffit à reconnaître.
En stéréo.
Mais ce rire, c'est violent. À quel moment est-ce que vous l'avez fait,
c'est derrière,
ça vient souvent.
Ouais.
Alors, on commence d'abord avec David Castello-Lopez qui nous raconte les origines des bombers.
Exactement. C'est manteau, le manteau que porte Tom Cruise dans Top Gun et que portent certaines autres personnes aussi. Je vous raconterai la généalogie de ce manteau.
Elle est militaire.
Elle est militaire.
Évidemment.
Et puis une boisson pour les aviateurs.
Stéphane, drôle de conception de l'aviation.
Non, il vaut mieux pas.
Hein. Non, mais je croyais que vous étiez dans la
thématique.
Plutôt
pour les gens qui sont à l'arrière de l'avion, voyez-vous, en première classe, bien allongé. Hein. C'est pas le champagne. C'est un produit qu'on fabrique aussi en champagne qui s'appelle le Ratafia. Qui a eu une époque de gloire, qui a un peu disparu, mais qui reste une tradition.
Revient.
Oui, surtout, ça reste une tradition dans pas mal de maisons de vignerons, que ce soit en Bourgogne ou
mais
en Champagne, où on fait son ratafia.
C'est un peu un champagne du pauvre.
Alors, ça n'a rien à voir. Vous verrez, c'est un tout autre produit.
D'accord.
Nous verrons, mais c'est alcoolisé. En tout cas,
ça je peux le préciser.
Donc, évitons
17 degrés d'alcool
avant de prendre le manche de l'avion, Stéphane. La lutte finale en toute fin d'émission, c'est le quiz qui permettra de départager les meilleurs d'entre nous, c'est-à-dire David, Olivier et moi, sous la houlette de Stéphane Bern. Et tout de suite, découvrons notre deuxième personnage à avoir passé le mur du son. Stéphane Bern nous raconte celui qu'il avait à une époque envisagé de racheter, le Concorde.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Notre deuxième personnage n'en est pas vraiment un. Quoique, une naissance, une date de mort, un physique particulier dû notamment à son long nez.
J'ai toujours détesté Claude Guéant.
Mais non, on parle pas de lui Stéphane, d'autant qu'il est bien vivant. Non mais d'un avion de ligne, le plus rapide qui ait jamais volé, une véritable légende de l'aéronautique qui franchit le mur du son à la toute fin des années 70. Stéphane Bern nous raconte le Concorde.
Nous sommes le 1er octobre 1969 à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il est aux alentours de 11h du matin lorsque, sur le tarmac, un appareil exceptionnel s'apprête à décoller. Une machine prodigieuse, presque un oiseau. Il n'a pas l'allure un peu rondelette des autres avions de ligne, les Boeing et autres avions de sud-aviation comme la Caravelle. Cet engin-là semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Longiligne, d'une finesse étonnante, il est muni non pas de deux ailes, mais d'une seule et unique aile delta, une aile dite gothique, semblable à une voilure. Son nez surtout ne ressemble à aucun autre. Il est pointu et allongé, tel le bec d'un martin pêcheur. Cet avion est un prototype, le Concorde 001, immatriculation FWTSS, TSS comme transport supersonique. Car l'appareil, produit d'une collaboration exceptionnelle entre la France et le Royaume-Uni, entre les avionneurs Sud-Aviation et la British Aircraft Corporation, est un avion capable sur le papier de dépasser la vitesse du son. Je dis sur le papier, car en ce début du mois d'octobre 1969, le Concorde n'a encore jamais atteint Mach 1. Ni lors de son vol inaugural 7 mois plus tôt, ni lors des 43 autres vols d'essai qui ont eu lieu depuis. Pas encore. Mais dans quelques minutes, cela pourrait bien changer. Aujourd'hui, sur cette piste de Toulouse où l'avion a été assemblé, les pilotes aux commandes vont pousser ces turboréacteurs à post-combustion plus loin et tenter de dépasser la vitesse du son tant espéré. Dans le cockpit très étroit de l'appareil, confortablement installé dans leur siège, les yeux rivés sur les innombrables cadrans et voyants, André Turca et Jean Pinet font leur checklist d'avant-vol. Les deux pilotes ont désormais l'habitude de l'appareil. C'est même André Turca qui l'a fait voler pour la toute première fois ce fameux jour du 2 mars 1969 devant une foule de journalistes et d'invités de la compagnie. Ce sont les mêmes gestes qu'il répète aujourd'hui, allumant un par un les quatre puissants moteurs Olympus avant d'aligner l'avion sur la piste de décollage. Malgré les 44 vols d'essai déjà effectués, la tension dans le cockpit et dans la tour de contrôle est palpable. Le jour est historique. Le Concorde va-t-il bien réagir au passage du mur du son ? L'autorisation de décoller est donnée. Le commandant pousse la manette des gaz en butée avant. Le bruit des moteurs s'emballe, les freins sont lâchés. Ça y est, l'avion est lancé. L'accélération est franche, très franche. En 30 secondes à peine, l'appareil passe de 0 à 400 km/h. Puis son nez soudain se lève. Ses roues quittent le sol et le ciel bientôt est visible sous son ventre. Le Concorde progressivement prend de l'altitude. 10 000, 20 000, 30 000 pieds. Sa vitesse aussi augmente. Il s'éloigne à une allure sensationnelle de Toulouse. Quelques minutes seulement après le décollage, le voilà déjà presque à 100 km de son point de départ. Il est environ 11h25. L'objectif d'altitude de 36 000 pieds est tout proche. Le Machmètre n'est plus bien loin du 1. Dans le cockpit, pas de sensation particulière. L'avion supporte parfaitement l'approche de cette frontière symbolique. À 11h29, désormais à plus de 120 km de Toulouse, le Concorde franchit le mur comme si de rien n'était. Il atteint Mach 1,05. À cette altitude, cela équivaut à une vitesse réelle d'environ 1100 km/h. Dans le cockpit, rien n'a trahi le passage, sauf peut-être un léger accroissement du bruit. Il tient l'allure près de 9 minutes. Ça y est, le Concorde est un avion transsonique. Désormais, ses vols d'essai, ceux du prototype 001 et de son jumeau, le 002, ne feront que grimper l'échelle des Mach. En novembre de l'année suivante, ils atteindront tous les deux, à quelques jours d'écart, la vitesse prodigieuse de Mach 2. Le record absolu du Concorde sera atteint par un appareil de pré-production, le 26 mars 1974, Mach 2-23, soit 2377 km/h. Jamais avion dans l'histoire de l'aviation n'avait subi autant d'heures de test. Plus de 5000 heures de vol, 2000 en vitesse supersonique. C'est environ 4 fois plus qu'un avion de ligne subsonique. Car le Concorde doit être parfaitement sûr. Il est destiné au transport de passagers. Ces deux tout premiers vols commerciaux ont lieu le 21 juin 1976, les deux à la même heure. Un vol Air France au départ de Paris à destination de Rio de Janeiro via Dakar et un British Airways Londres-Bahreïn. Air France et British Airways seront les deux seules compagnies à exploiter l'avion. Étonnant pour un avion qui révolutionne le marché. Mais le choc pétrolier de 1973 est passé par là. Et les quelques 16 compagnies qui avaient passé commande au moment de sa mise sur le marché ont fait machine arrière. Il faut dire que le Concorde n'est pas un avion bon marché. Son exploitation coûte cher, très cher. Pour un Paris-New York, par exemple, il consomme environ 4 fois plus qu'un Boeing 747. Le prix des billets s'en ressent d'ailleurs, 30 000 francs en moyenne pour un transatlantique. Mais la clientèle existe, forcément. Les 6 000 km qui séparent la capitale française de la grosse pomme, le Concorde les parcourt en seulement 3h36 minutes, soit 2,5 fois plus vite qu'un Boeing ou Airbus classique. Sa vitesse de croisière atteint Mach 2,02, soit environ 2179 km/h, et il monte jusqu'à 18 000 mètres d'altitude, contre 9 000 mètres pour les autres et 900 km/h. Plus impressionnant encore, il peut tenir cette allure pendant 3 heures, presque aucun autre avion, même militaire, n'est capable d'égaler. C'est bien simple, on ne lui a connu qu'un seul rival, le Tupolev Tu-144. Mais cet avion russe, au demeurant très similaire esthétiquement, ne servira que quelques mois pour le transport de passagers. Le Concorde, lui, sera exploité au total 27 ans, de 1976 à 2003, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'ignorer son manque de rentabilité. L'avion, en effet, consomme beaucoup trop. Son exploitation est déficitaire. En outre, un crash dramatique précipite sa chute. Nous sommes le 25 juillet 2000.
Je conduisais et d'un coup j'ai entendu le Concorde qui décollait et j'ai regardé sur ma gauche et je l'ai vu qui arrivait avec l'aile gauche en flamme. Et d'un coup il a essayé de faire demi-tour et il s'est scratché.
Comme l'annonce se passant au micro du journaliste Donat Vidal-Revel sur Europe 1, le vol 4590 à destination de New York vient de s'écraser au-dessus de Gonesse, 2 minutes après son décollage de l'aéroport Charles de Gaulle. Le bilan est lourd, 113 morts. Dont 4 au sol. Les images terribles de son fuselage en feu font le tour du monde. Le nombre de réservations chute irrémédiablement. C'est le coup de grâce. Fait unique dans l'histoire des technologies de pointe, le Concorde n'a depuis pas connu de successeur. Pas encore du moins, car plusieurs projets d'avions de ligne transsonique sont en cours. Étoile filante dans le ciel de l'aviation, son existence n'a pas pour autant été vaine. Car au-delà du mythe, le Concorde a laissé un héritage pérenne que peu d'entre nous connaissent. On lui doit pourtant de nombreuses innovations techniques qui rendent plus sûrs les avions de ligne à bord desquels on embarque aujourd'hui. Le Concorde, pionnier ou mythique, fera toujours parler de lui.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler du Concorde, nous sommes Stéphane avec la seule pilote française qui en a pris les commandes. Bonjour Béatrice Vial.
Bonjour.
Oui Béatrice Vial, vous êtes commandante de bord sur Boeing 777 d'Air France et vous avez pris les commandes du mythique Concorde en tant que copilote au début des années 2000. Vous êtes la seule femme française à avoir piloté un Concorde. Pourquoi la seule ? Il y a peu de femmes commandantes de bord et encore moins qui pouvaient espérer piloter cet avion supersonique ?
En fait, ça a été la chance de mon choix de carrière que j'ai fait quand j'étais copilote. Et donc, j'avais fait le choix de carrière de rester copilote pour m'occuper un peu plus de mes enfants, alors que je pouvais passer commandant de bord dès 1994. Par conséquent, j'étais la plus ancienne sur la liste de séniorité des copilotes, ce qui m'a permis d'accéder en 2000 à la qualification sur Concorde. Aucune femme, en fait, n'avait l'ancienneté commandant de bord pour accéder à cet avion. Évidemment, c'était le rêve et l'ambition de tout pilote d'Air France, mais seule la position sur cette liste de séniorité était déterminante. C'est pourquoi, moi, étant très vieille copilote, 15 ans d'ancienneté, j'ai pu accéder à cette formation sur Concorde.
C'était votre ambition de piloter le Concorde ?
Tout pilote rêve de piloter un jour le Concorde, enfin à notre époque, puisque maintenant il n'existe plus. Mais je pensais que ce rêve serait inaccessible pour moi quand je suis rentrée à Air France. Il est devenu réalité.
Pour qu'on comprenne bien, Béatrice Vial, le Concorde, c'est un avion qui est vraiment très différent des autres avions subsoniques dont on a parlé. Quelles compétences il faut avoir pour piloter ce type d'avion ? On imagine que... Il y a une technique à apprendre particulière, une formation de nombreuses heures en simulateur ?
Alors, en fait, cet avion avait une technicité beaucoup plus importante que les autres. C'est pourquoi la formation que nous appelons, nous, à Air France, la qualification, durait beaucoup plus longtemps. Et il nous fallait maîtriser le fonctionnement de tous les systèmes du Concorde dans les trois domaines de vol. Le domaine subsonique, comme un avion classique, le domaine transonique et le domaine supersonique. Alors, la formation comportait une phase sol, hein, au niveau théorique. Il fallait apprendre tous les systèmes de l'avion. Puis, en pratique, la phase d'apprentissage au simulateur. ainsi, une fois qu'on maîtrisait le fonctionnement normal du Concorde, dans les trois domaines, il fallait maîtriser toutes les pannes qui auraient pu intervenir dans ces trois domaines aussi. Donc en fait, cette qualification, cette formation était beaucoup plus longue que pour un avion classique.
Et qu'est-ce que vous ressentiez ? C'est-à-dire, est-ce que c'était juste de l'excitation de se former sur Concorde ou c'était aussi parfois de la peur ?
Ah non, la peur, non, jamais. Par contre, c'est un avion tellement différent des autres avions, c'est comme de passer d'une voiture normale à une Formule 1. Je pense que la marche est aussi haute, je pense. Et donc, pour tout personne qui aime piloter, c'est vrai que piloter le Concorde, c'est un autre défi. C'est tout à fait autre chose.
Alors, on s'intéresse aujourd'hui à ceux qui ont passé le mur du son sans se poser de questions. Je l'ai dit, André Turcat et Jean Pinel ont passé avec le Concorde et une certaine tension d'ailleurs dans le cockpit. Quand on y est, c'est plus le moment de se poser de questions ou est-ce que vous vous en posiez un peu quand même ?
En fait, non. Je pense que la concentration et la charge de travail est telle que les émotions n'ont de place qu'à l'arrivée du vol. En fait, à bord, le passage du mur du son n'est visible que sur nos instruments. Physiquement, nous ne percevons aucun changement.
On ne le ressent pas.
Juste l'émerveillement de voir le Mach augmenter rapidement. Mais nous ne ressentons physiquement rien. Donc, on avait évidemment une surveillance accrue pendant toute cette phase transsonique. Et ensuite, pendant la phase d'accélération, il fallait qu'on soit très, très concentré sur les instruments pour voir que tout allait bien. Physiquement, nous ne ressentions rien.
Alors, vous, Béatrice Vial, vous avez effectué votre premier vol sur Concorde après le terrible crash du 25 juillet 2000. Au-delà des 113 victimes, ça a signé quelque part la mort de l'avion. Trois ans après, il ne volait plus.
Malgré les modifications qui sont intervenues durant l'arrêt des vols, il y a eu un changement de conception des pneus par Michelin. Il y a eu la mise en place de liners dans les réservoirs. La durée de vie du Concorde a été réduite. En fait, il coûtait cher en entretien car les avions étaient très peu nombreux puisqu'il n'y a eu que 20 exemplaires construits et seulement 14 qui ont servi à faire des vols commerciaux. 7 à Air France et 7 à British Airways. Donc en fait, le Concorde n'était plus rentable et malheureusement, il a été arrêté beaucoup plus trop tôt.
Mais on a aussi l'impression, Béatrice, que le Concorde était le symbole d'une époque. Il coûtait cher, il consommait beaucoup, il polluait plus encore. C'est aussi pour ça qu'il est mythique. D'ailleurs, il appartient aux années glorieuses. Il ne pourrait plus exister aujourd'hui, non ?
Oui. C'est sûr qu'actuellement, c'est plus dans l'air du temps de faire voler des avions qui consomment beaucoup, qui font du bruit. On est passé à autre chose et l'ère Internet fait qu'on n'est plus obligé de se déplacer aussi pour aller signer un contrat. On peut le faire en visioconférence, on peut avoir des signatures électroniques, on peut... Donc la mentalité a changé. À l'époque, on ne regardait pas le prix des défis technologiques, alors que maintenant, tout est différent. La société a évolué et malheureusement, toutes ces technologies très poussées n'ont plus le même intérêt pour les gens maintenant.
Est-ce qu'il y a, chez vous, en tant que pilote, une part de frustration quand même ? Vous avez plus de 16 000 heures de vol au compteur, dont 360 pour le Concorde. Vous auriez aimé le piloter un peu plus quand même, non ?
Oui, c'est sûr que c'est un avion qu'on aime, parce que c'est un avion absolument magique. C'est un avion qui n'était pas construit comme un avion classique. Et donc, les techniques d'atterrissage, les techniques de décollage étaient différentes. Son fameux nez pointu que l'on baissait pour le décollage ou pour l'atterrissage, puisqu'on était tellement cabré qu'on ne pouvait pas voir la piste, sinon. Tout ça, ça n'existe pas sur un avion normal. L'aile, pareil, ce n'était pas du tout la même technique d'atterrissage et autres. Donc, c'est vrai que pour nous, pilotes, c'était vraiment différent, mais magique à chaque vol.
Mais merci beaucoup, Béatrice Vial, d'être venue avec nous sur cet avion mythique qui a franchi le mur du son avant de tirer sa révérence. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent voir le Concorde en vrai au Musée de l'air et de l'espace, et c'est au Bourget. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque des personnages qui ont passé le mur du son, sans se poser de questions. Après Chuck Yeager et le Concorde, Mathieu, vous nous racontez l'histoire d'un producteur qui lui a carrément conçu le mur du son.
Au moment de choisir mon personnage du jour, mon cœur a longuement balancé entre ce mélomane de talent, bien dans le thème du jour, et cette modeste figure de la musique populaire, Phil Spector, à qui l'on doit quelques petites choses comme... Où ça ? Et ce vieux machin là aussi ? Ou encore tant qu'on y est ? Puis aussi cette vague face B. Bref, vous l'aurez compris, une bonne partie de notre culture musicale, on la lui doit. Phil Spector n'a pas été un grand producteur des 60s, il a été le pionnier d'un nouveau type d'enregistrement qu'on a appelé le Wall of Sound, le mur du son. Dans le dictionnaire du rock, il est écrit que Phil Spector injecta un romantisme et une démesure wagnérienne à des chansonnettes souvent sans conséquence. On le félicite d'avoir, je cite, « joué un rôle majeur dans le rapprochement culturel des publics adolescents noirs et blancs à une époque où la ségrégation raciale était encore vivace ». Oui, comme le dictionnaire du rock, je le félicite volontiers, Phil, pour ce qu'il a fait au rock, moins pour ce qu'il a fait à la femme qui l'a buté un jour. Et oui, car oui, j'ai oublié de vous préciser, Phil Spector s'est découvert sur le tard un goût pour l'assassinat. Son look est à l'image de son tempérament, assez inexplicable, une chevelure lunatique, indomptable, un regard illuminé, sorte de bootleg entre Welbeck, Gargamel, Einstein et Cher. Harvey Philip Spector naît le 26 décembre 1939 dans le Bronx, à New York, dans une famille juive d'origine russe de classe moyenne. Son père est ouvrier ferronnier, sa mère femme au foyer, terreau peu propice à l'éclosion d'un génie psychopathe. Il faudrait un déclic. Heureusement, celui-ci arrive lorsque son père se suicide sans la moindre explication. Phil déménage avec sa mère et sa sœur à Los Angeles en 1953. Gringalet, sans amis, détestant l'école, Phil n'aime qu'une chose, l'accordéon. En 1958, il enregistre une première chanson avec des amis, son titre, l'épitaphe gravée sur la tombe de son papa. « To know him is to love him ». Ça date un peu, mais à l'époque, le morceau est un carton. À 21 ans seulement, Phil Spector est millionnaire. Mais très vite, il préfère se diriger vers une carrière de producteur. Il fonde sa société, Files Records, avec laquelle il va coécrire et produire ceci. Est-ce que vous connaissez cette chanson ?
Elvis ?
Pas tout à fait.
Non.
On est un peu plus tard quand même. You've lost that loving feeling des Righteous Brothers, qui sera tout simplement, et ça m'a étonné même, la chanson la plus diffusée aux États-Unis au XXe siècle. Les Crystals, les Ronettes, Tina Turner, Leonard Cohen, les Ramones, les Stones, tout le monde veut bosser avec lui. En 1968, ignorant le précepte du No Job in Job, il épouse Ronnie, la soliste des Ronettes, qu'il produit donc. Ça, vous connaissez. Jaloux, dominateur toxique, un brin pervers narcissique aussi, il nous révélerait certainement un test psycho de Marie-Claire. Il va jusqu'à confisquer ses chaussures à Ronnie pour l'empêcher de sortir. Oui, car Phil est du genre jaloux. Bon, comme Ronnie a en fait plusieurs paires de chaussures, sa tactique échoue et il est obligé de monter d'un cran en l'enfermant dans un placard, comme vous faites Stéphane avec Mirza quand il a uriné sur les bégonias.
Ah bah oui, il est enfermé dans sa boîte.
C'est déjà cruel, mais,
c'est
Phil, mais c'est horrible ce que vous faites avec vos chiens. Mais Phil Spector est encore plus cruel que vous, Stéphane. Comme un placard, même de l'intérieur, ça finit par s'ouvrir, il va avoir une autre idée, installer un cercueil en or dans la cave de son manoir où il menace, ça vous plaît aussi, où il menace d'enfermer Ronnie si elle ose tenter un jour de le quitter. Oui, vous l'avez compris, Phil est un homme qui a beaucoup réfléchi à l'idée du couple. Son analyse est la suivante, je cite « L'amour est une illusion obsessionnelle qui se guérit par le mariage ». Ronnie, pas rancunière, dira de lui sur sa page Instagram après sa mort. Ah oui, parce que, spoiler alert, il va mourir. « C'est un jour triste pour la musique et un jour triste pour moi. Quand j'ai travaillé avec Phil Spector, je savais que j'étais avec le meilleur. Le rencontrer et tomber amoureuse de lui, c'était comme un conte de fées. Mais comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'était un producteur brillant, mais un mari pourri. Oui, bon, Ronnie, c'était peut-être un shitty husband, mais c'était quand même un sacré producteur. » Wouldn't it be nice? L'inventeur donc du Wall of Sound, une technique qui consiste en fait à enregistrer chaque instrument en mono, soit séparément, pour les superposer par la suite. Le but, donner à la pop la profondeur d'un orchestre classique en studio. Je me sentais obligé de changer la musique en art, de la même manière que Galilée a prouvé que la Terre était ronde au monde et que le soleil ne s'arrêtait pas, dira-t-il modestement. Cette technique influence alors les plus grands artistes de la planète, tels que les Beatles, les Beach Boys, mais également Bruce Springsteen. Parmi les tubes enregistrés en Wall of Sound, si on peut dire, vous avez par exemple... cette musique que Stéphane adore mettre en fond sonore quand il moule un bronze dans son atelier de Tyron Gardet. Mais Phil Spector est aussi l'homme derrière. Alors, sa dernière collaboration avec John Lennon.
Mouler un bronze.
Oui,
mais
il moule. Oui, bien sûr.
Ben oui,
on les coule parfois.
Vous savez, c'est une référence à la scène du film Ghost.
Ah oui, mais
vous avez vraiment l'esprit très mal tourné. Oui, quand
c'est,
même.
C'est de la poterie.
Oui, c'est de la poterie. Oui, c'est vrai.
On fait de la céramique davantage.
C'est vrai. Sa dernière collaboration avec John Lennon finira mal puisque, jugeant l'entourage de John trop intrusif, Phil va décider de pacifier la situation en débarquant en studio avec une arme à la main, de menacer tout le monde de « blow their fucking head off » avant d'emporter les bobines d'enregistrement. John Lennon les récupérera quelques mois plus tard pour finir l'album tout seul. La menace armée en studio devient alors son dada à Phil Spector. Sa signature, il menace Leonard Cohen d'une arbalète en 1979, puis le bassiste des Ramones avec un flingue 3 ans plus tard. La chanteuse de Blondie, elle, plus chanceuse, raconte qu'il s'amusait seulement à viser ses chaussures d'une arme en criant « bang bang ». Rebelote avec Céline Dion en 95, où René est obligé d'expulser Manu Militari du studio Phil Spector. Il avait une fois de plus dégainé son magnum pour appuyer ses arguments artistiques. En 2003, après déjà une longue traversée du désert, c'est la chute, la vraie, tu vois. Le cadavre de l'actrice Lana Clarkson est retrouvé chez Philou en Californie. Après une soirée alcoolisée dans une boîte de nuit où elle travaille comme hôtesse, l'actrice de série B en question accepte, hélas, de suivre Phil dans son manoir.
Vieille salope.
Non Stéphane, vous êtes dur. Je dirais plutôt pauvre enfant. Pauvre enfant, ne la jugez mais pas, car la suite n'est pas très jolie, je dis Stéphane. Non, mais vous la jugez, vous pensez que c'est une fille facile. Moi, je dis simplement, c'est une femme qui était en quête d'amour. Au beau milieu de la nuit, le chauffeur de Spector, qui était resté dehors, entend un coup de feu. C'est alors que Phil sort de chez lui, un revolver ensanglanté à la main, et dit « Je crois que je viens de buter quelqu'un ». La police découvre l'actrice sur une chaise avec une balle de 9 mm dans la bouche et, sous sa jambe gauche, le revolver. De manière fort habile, Phil Spector affirme qu'elle se serait elle-même tiré une balle dans la bouche. Hélas pour lui, la version du suicide tient assez peu la route. Après 2 procès, Spector est condamné en 2009 à une peine minimum de 19 ans de réclusion. Quelques semaines avant cette soirée fatale, il déclarait dans une sorte d'éclair de lucidité « Je dirais que je suis relativement fou. J'ai des démons intérieurs qui me combattent. Bien vu, Philou. » Mais depuis sa prison, Phil Spector reste un mythe. Al Pacino l'incarne en 2013 dans un téléfilm diffusé sur HBO. En janvier 2021, Phil Spector finit par mourir à 81 ans dans un hôpital pénitentiaire de Californie. L'hommage public est forcément délicat, c'est l'éternelle question. Faut-il distinguer l'homme de l'artiste ?
Et Hitler en premier.
Mais qu'est-ce que vous dites, Stéphane ? Non, moi je ne me prononce pas. Bon, je condamne évidemment les actes impardonnables de l'homme, mais je salue le génie de l'artiste. Pour finir, Stéphane, votre chanson préférée produite par Phil Spector ?
Le téléphone.
Ah oui, aussi, il a vraiment tout produit, hein. C'est fou ce Wall of Sound.
Oui. Merci beaucoup Mathieu.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement
Historiquement vôtre, spécial Top Gun Maverick, le film événement en partenariat avec Europe 1. Et on est tellement en partenariat qu'aujourd'hui, David, vous nous racontez l'origine du Bombers.
Ouais. Les adolescents, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que c'est vraiment les pires personnes de l'humanité. Tous les défauts qui sont un peu mitigés à l'âge adulte, ils sont en roue libre totale à l'adolescence. Et en particulier, le conformisme. Les adolescents, ils se prennent souvent pour des gros rebelles, alors que leur rébellion, elle prend systématiquement des chemins ultra prévisibles qui montrent qu'en réalité, ce sont l'exact inverse de rebelles. Et moi, j'étais, je pense, un spécimen particulièrement odieux de conformiste. Dès que je voyais apparaître un semblant de mode chez mes camarades, je voulais tout de suite m'y conformer. J'ai déjà raconté ici que quand j'ai compris que c'était cool d'avoir des jeans Levi's, par exemple, je suis arrivé un jour en total look jean, pantalon, chemise, veste en jean, comme un bouffon. Et de la même façon, en quatrième, quand j'ai vu quelques camarades commencer à porter des Bombers, j'ai immédiatement voulu un Bombers. Quand j'avais 13 ans, la marque reine du Bombers, c'était Scott.
Ah, Scott, oui.
S-C-H-O-2-T.
Il y avait Chevignon aussi.
Il y avait Chevignon, mais Chevignon, c'était surtout les doudounes.
C'était les Bombers aussi.
Enfin, c'est donc que c'était plutôt caractérisé Scott. Alors un jour, je suis allé avec mes parents au marché aux puces de Saint-Ouen, juste derrière le périphérique à Paris. Petite parenthèse, c'est un lieu assez unique en France, le marché aux puces quand même, dans le sens où c'est un lieu à la fois
très mal famé, où on peut acheter quand même de la mayonnaise d'occasion. Mais en même temps, c'est un endroit ultra chic où on peut acheter des commodes d'antiquaire à 50 000 euros. Tout ça au même endroit. C'est quand même très
La mixité sociale.
Exactement. Mais moi, donc, j'y suis allé pour trouver un bon burst et on l'a trouvé. Ça a coûté 500 francs, ce qui était quand même...
C'était pas un scotch, c'était un shot ou un...
C'était un shot. Non, c'était un vrai. C'était un vrai. En tout cas, on m'a dit que c'était un vrai. Et c'était quand même... On pouvait faire ça. Il y avait aussi du chevignon...
Il y avait du frelaté aussi.
Il y avait du frelaté, c'est vrai tout ça. Mais en tout cas, là, je pense que c'était quand même un vrai
shot. Pas son rêve de... Il est persuadé d'avoir eu un vrai bon beurre.
Exactement. Je suis revenu au collège le lundi avec une fierté complètement débile. Et ça a quand même fait son petit effet. Et pourtant, jamais depuis ce jour, je m'étais intéressé aux origines du bon beurre. Chose que je m'apprête à corriger. Bon, les origines du Bombers, une fois n'est pas coutume, elles sont dans le nom même de l'objet. Hein. Bomber, ça veut dire bombardier, c'est un type d'avion, et donc le Bombers, c'est un blouson qui a été fait pour pouvoir être porté par les aviateurs dans les bombardiers. À noter tout de même que Bombers, c'est un faux ami, parce qu'en anglais, ça se dit pas Bombers, ça se dit Bomber Jacket. Si vous dites Bombers, vous avez l'air d'un teubé. Les premières versions du Bombers, elles datent des débuts de l'aviation militaire pendant la Première Guerre mondiale, à un moment où c'était vraiment très important d'avoir un manteau chaud, puisque les avions étaient à ciel ouvert. Donc il valait mieux être bien couvert. Et à partir de là, le design du Bombers, il s'est adapté aux évolutions technologiques des avions, tout en utilisant aussi les innovations technologiques dans les matériaux. Il est passé par exemple par la version en cuir avec col fourrure que porte Maverick dans Top Gun, avec tous ses écussons partout. Et il s'est fixé finalement dans les années 70 sur le modèle iconique, le Bombers en nylon vert olive avec la doublure orange fluo. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui-ci. Ah, voilà. Vous voyez, ça, c'est le Bombers. C'est l'authentique. Il a toutes ces caractéristiques que je viens de citer, hein, le fait qu'il soit vert, le fait qu'il soit en nylon, le fait qu'il soit orange fluo, elles peuvent s'expliquer par des impératifs militaires. Le vert olive, c'est pour pouvoir être mieux camouflé quand les aviateurs étaient au sol dans les jungles du Vietnam.
Et l'orange,
l'orange fluo, c'était un outil pour pouvoir être au contraire repéré facilement par les services de secours en cas de crash. Vous voyez, tout s'explique.
On le retournait
et du coup, on était très visible. Et le nylon, ça permettait de garder l'aviateur au chaud en altitude tout en n'étant pas trop chaud lorsqu'il était au sol dans la jungle. Mais déjà, avant ça, le Bombers, il avait franchi la frontière qui sépare le monde militaire du monde civil, grâce notamment à Hollywood, où Humphrey Bogart, Marlon Brando, James Dean, dans les années 50, ils en portaient dans certains de leurs films. Et puis, progressivement, sans qu'on sache exactement pourquoi, le Bombers a été adopté par des groupes minoritaires. Les skinheads, d'abord, qui l'ont associé à des cheveux rasés et à des bottes militaires pour avoir l'air méchant et surviril. Par la communauté gay, à partir des années 70, qu'il a probablement adopté précisément parce que c'était le look de leurs ennemis, les skinheads. Et le cool du Bombers, a priori, n'a jamais vraiment cessé. Il y a quand même eu un relais de ce cool en 2013, particulièrement médiatisé, quand Kanye West en a porté un dans une de ses tournées. Il en a porté un avec un écusson du drapeau confédéré sur la manche.
Mais il en avait conscience ou...
Il en avait complètement conscience. Il m'a dit, mais quand même, c'est un drapeau des racistes esclavagistes. Et il a dit, ouais, je sais, mais maintenant, c'est mon drapeau et je vous emmerde. Peut-être, d'ailleurs, avec le même principe que les skins, que les gays se réapproprient. Ou juste pour faire sa pub et pour que ça marche. Voilà. Alors, Kylie Jenner en apporter aussi. Donc voilà. Je sais, aujourd'hui en 2022, je sais pas vraiment si c'est la pointe du cool, mais encore une fois, peut-être que j'avais vraiment envie de me tourner vers vous, Mathieu, parce que vous savez, vous avez fait des articles dans JQ sur le style, tout ça, machin.
Évidemment. Mais non, mais j'en sais rien, mais je pense effectivement qu'il y a. C'est plus la pointe de la mode. Oui. C'est pas le truc qu'on cherche en ce moment. Oui. En revanche, ça reste toujours assez cool de porter un Bombers de temps en temps. Je crois que c'est.
Ça s'est jamais complètement démodé. Non,
c'est un basique de votre garde-robe.
Exactement.
Vous en avez un, vous, David ?
Je dois avoir quelque part parce que je ne jette rien. Donc ça doit être quelque part. Le Bombers de 1995 doit exister, mais j'en ai pas un. Non, moi, de toute façon, je suis toujours habillé pareil. Quoi. Voilà.
Très bien. Vous êtes vraiment conformiste.
Exact.
Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et vidéo, sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Olivier Pouls n'en a que faire des Bombers. Lui, ce qu'il aime, c'est s'envoyer du ratafia. Ouais. Ah oui, c'est vrai.
J'en ai eu en cuir.
Ah, en cuir.
La classe.
Tu devais être très très fier de le porter.
Ah oui,
tu as une belle tête de con quand tu avais ton Bombers. Ça m'en est en te croisant. Est-ce que tu as retrouvé le mec qui te défaisait les scratchs ?
Ah ben, il n'osait plus m'approcher quand j'avais le Bombers. Évidemment.
Tu inspirais crainte et respect. Aujourd'hui, on parle du ratafia, Olivier. Ouais. Et on ne sait pas tous forcément ce que c'est le ratafia.
Mais oui, je suis étonné. Alors, c'est vrai que c'est un produit qui fleure un peu le temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est vrai que traditionnellement, c'était un produit qui était servi à l'apéritif dans de nombreuses familles françaises, mais surtout des familles vigneronnes. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. important. Parce que qu'est-ce que c'est que le ratafia, en fait? Il en existe deux sortes. Le ratafia traditionnel, c'est un mélange de mou de raisin, c'est-à-dire de jus de raisin qui n'a pas fermenté, et dans lequel on met de l'alcool issu de la viticulture. En général, c'est 2/3 de mou de raisin pour 1/3 d'alcool. Et l'alcool, qu'est-ce qu'il fait? Il va empêcher que ce mou de raisin ne commence à fermenter, donc que le sucre ne se transforme en alcool, que ça ne devienne du vin, en quelque sorte.
C'est une sorte de jus de raisin
Jus de raisin fortifié avec de l'alcool. Et que certains font vieillir, d'ailleurs, ensuite, pendant quelques mois, quelques années, dans des tonneaux. On garde le côté jus de raisin très primaire, on garde du sucre, évidemment, parce qu'il y a du sucre dans ce jus de raisin, puis il y a de l'alcool. Le degré alcoolique de ce ratafia, il est d'environ 17-18 degrés. Ouais,
quand même.
Et puis, un autre type de ratafia, c'est ce qu'on appelle le ratafia de fruits. Alors, lui, c'était l'apéritif favori de Stendhal, par exemple. Et lui, il est élaboré par macération de fruits. Alors, on peut prendre plein de types de fruits dans de l'alcool neutre. Et je vais vous donner une petite recette dans quelques instants. Mais tout d'abord, d'où vient ce ratafia? Il y a plusieurs spécialistes du ratafia qui se sont penchés sur la question. Ils ne sont pas tous d'accord. Alors certains prétendent que ça pourrait remonter à l'époque de la Rome antique, où on commençait d'ailleurs à vinifier d'une manière un petit peu plus précise. J'y crois pas trop parce qu'en fait, pour faire du ratafia, il faut de l'alcool et de l'alcool distillé, et les Romains ne connaissaient pas la distillation. Alors, c'est probablement arrivé un peu plus tard. Il y a une autre explication, c'est dans l'Italie au XIIIe siècle. Et comme beaucoup de produits, en fait, le ratafia, il est né d'un besoin, le besoin de pouvoir conserver des choses et notamment de pouvoir conserver des fruits. Et d'ailleurs, ratafia, qui est ce qu'on appelle une technique de mistel, misto en italien, ça veut dire mélanger, se propage ensuite un peu partout en Europe. Il arrive chez nous vers le 14e, 15e siècle. On le voit apparaître dans de nombreuses régions viticoles. Alors, les deux grandes régions viticoles aujourd'hui qui continuent à faire du ratafia, c'est la Champagne et la Bourgogne. C'était quelque chose qui se faisait traditionnellement au moment des vendanges, quand on avait pressé le raisin, on avait le mou, on gardait un petit peu de ce mou de raisin pour faire le ratafia.
C'est l'idée aussi que rien ne doit se perdre, quoi.
C'est aussi l'idée que rien ne doit se perdre. Et puis surtout, ça pouvait se consommer plus vite que du vin, puisqu'il n'y avait pas besoin d'attendre tout le processus de fermentation, etc. Alors le nom même ratafia pourrait provenir d'une expression latine, ratafiat, marché conclu. Et en fait, on buvait le ratafia pour sceller un accord.
Vous avez dit que ça
fait.
Remonte pas à la Rome antique.
Alors, c'est pas pour ça que l'expression romaine n'a pas pu être utilisée un peu plus tard au Moyen-Âge. Hein, et c'est pas forcément concomitant. Et ensuite, il y a une autre explication, c'est que ça pourrait venir des Indes. Et quand les Français faisaient goûter ce produit aux Indes à de la population locale, ils disaient « tafia », ce à quoi les Français devaient répondre « ratafia ». Ça veut dire en quelque sorte « santé ». On disait « ratafia », on répondait « ratafia ».
Il y a vraiment plusieurs origines possibles qui n'ont vraiment rien à voir, Olivier.
Alors,
hein.
C'est vrai que c'est assez... Mais choisissez la vôtre.
Hein. Et vous avez choisi laquelle?
Moi, j'aime bien l'idée de marché conclu. Je trouve ça assez sympa. Et je crois effectivement que c'est un produit qui est vraiment né, en tout cas qui s'est développé dans les régions viticoles à partir du Moyen-Âge, quand la vigne s'était vraiment installée, que les techniques de vinification contemporaine commençaient à être connues. Mais vous pouvez faire du ratafia chez vous. Alors, en cette saison, il n'y a évidemment pas de raisin, ce n'est pas la période des vendanges, on attendra le mois de septembre
pommes,
pour ça.
Hein,
on a des pommes, mais on a surtout les fruits rouges.
On a pas mal de fruits rouges.
Alors, vous prenez 1 kg de fruits rouges, mélangés, que vous allez presser tout simplement, récupérer ce jus que vous filtrez. Il vous faut à peu près un bon 2 millilitres de jus. On rajoute 150 g de sucre, 25 centilitres d'eau de vie, une eau de vie neutre pour le coup. Si vous voulez l'aromatiser, un petit peu de grains de poivre, une petite gousse de vanille, vous mettez tout ça dans un bocal, vous fermez le bocal et vous laissez macérer pendant 3 semaines, 1 mois. Et après, vous pouvez commencer à le déguster.
Mais le ratafia, c'est forcément avec du raisin, ou ça, ce que vous avez décrit,
ça, c'est
aussi
une version aux fruits.
Un ratafia aux fruits, c'est possible.
On peut le faire. Quand il n'y a pas de raisin, on peut le faire avec d'autres produits. Alors, certains le font avec des noix, certains le font avec des fruits secs. Il y a plein de manières
tout
de faire
possible.
De ratafia.
Une grande liberté, évidemment. Pour le ratafia. Merci beaucoup Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Je ne sais pas si vos cerveaux ont suffisamment macéré. En tout cas maintenant, il va falloir libérer ce jus avec la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, vous connaissez le principe, je commence avec vous David. Nous voulons introduire graduellement, lentement, prudemment le noir dans la jouissance des bienfaits de l'humanité, sous la tutelle de leur mère patrie, comme un enfant pour le compléter et non comme un sauvage pour le ravager. À quel grand homme doit-on cette phrase qui fait froid dans le dos? À Napoléon, à Lamartine ou à Chateaubriand?
D'accord. Alors, c'est Napoléon, Lamartine ou Chateaubriand.
Le problème, voilà. C'est qu'il y a pas de, d'habitude, il y a toujours un... une possibilité à la con.
Oui.
Mais c'est, y en a, là, les là, trois y a sont, pas, sont oui. presque.
Et là, les trois, j'espère que les autres ont trois possibilités aussi. Mmh. Ça sent un peu le progressisme d'il y a très, 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 très longtemps. C'est les... Non, je dirais que c'est. Ah, c'est dur.
5.
Je dirais 3, que c'est Lamartine. Voilà.
Alors là, chapeau. Hein.
Lamartine sur le fil.
Lors d'un banquet en 1847, oui. Lamartine. Bravo. Ouais. Mathieu, je sais que vous parlez russe, alors une question sur les montagnes russes. En 2011, au Japon, a été inaugurée la montagne russe la plus raide du monde. Une pente de 121 degrés. Mais est-ce que c'est la plus rapide au monde ?
Alors déjà, je comprends pas, 121 degrés, c'est plus que l'angle droit. Par exemple, 90 degrés, c'est l'angle droit. Il y a des... Et il y a des attractions dans lesquelles on descend à angle droit, déjà pour commencer, donc je ne comprends pas cette histoire. Déjà, la question est, à mon avis, mal tournée.
Pour voir l'équerre, le côté raide de l'équerre, ce n'est pas ça la pente de la...
D'accord. Donc vous avez raison, la question est donc bien formulée, je retire ce que j'ai dit. Et donc, vous me demandez si c'est la plus rapide.
Est-ce que c'est la plus rapide des montagnes russes au monde ? Ou est-ce que peut-être, dans le monde, il y a une montagne russe plus rapide que celle du Japon ?
Non, alors écoutez, je dirais que non, parce que sinon je ne vois pas pourquoi la question soit tournée comme ça, si c'est à la fois la pente la plus forte et le plus rapide dans ces logiques. Donc comme celui qui conçoit ce quiz est un petit peu fou, je dirais que c'est faux, c'est pas la plus...
Vous avez raison, elle est à Abu Dhabi, il y a une petite pointe de vitesse à 240 km/h.
Oh ça va,
pas mal hein.
Je vous ai souvent raconté, mon cher Olivier, que le roi Henri II avait du mal à rentrer dans l'arène Catherine de Médicis. Ils avaient des sexes incompatibles, dirons-nous. Le roi Henri II avait...
On sent que ça vous gêne. Hein.
Oui, parce que voyez-vous, je n'aime pas parler de ces sujets. Je sais que ça peut en toucher d'autres autour de la table.
Il a fait un rubis rosa.
Non, il n'avait pas un rubis rosa. La reine en aurait été satisfaite. Il avait une déformation de la verge. Deux propositions. La maladie de la péronie ou la maladie de Groningue.
Vous n'avez pas de descriptif des deux déformations ?
N'étant pas sexologue professionnel, j'ai un peu de mal à imaginer, à visualiser.
Non, je vous donne un indice.
Pourquoi ?
Parce qu'il est gentil, il a bon fond.
Oui, j'ai bon fond. La reine Catherine de Médicis s'inquiétait, elle ne pouvait pas lui donner d'enfant. Alors que les maîtresses lui en donnaient.
Oui, bon,
ils avaient des sexes pas compatibles.
Vous m'avez dit quoi, une péronie ou Groningue ?
Oui.
Plutôt une péronie, parce que je parle un peu, mais.
Bah voilà, la péronie. Eh oui.
C'est quoi ? Mais c'est quoi ? On veut des détails.
Je pense qu'il avait une courbure.
La tuyauterie était courbée.
Voilà, exactement. Et comme la reine elle-même avait une rétroversion utérine,
c'était pas courbé dans le bon sens.
Voilà.
C'est le médecin de Diane de Poitiers qui a été expliqué au roi et à la reine. Il fallait qu'ils prennent certaines positions.
Oui, il faut se mettre dans le
sens.
Tout le monde n'est pas un expert du sexe comme vous, David, et on ne pense pas forcément à ces choses-là.
Alors, la question qui vous départage, je rappelle la réponse la plus proche, obtient la victoire de la lutte finale. En avril 1848, la France abolit l'esclavage pour la deuxième fois. Napoléon, je rappelle, l'avait rétabli. En 1849, on décide d'indemniser non pas les esclaves, mais les colons. Pour l'État, en pourcentage, combien cette indemnité représente dans les dépenses publiques totales ? On indemnise les colons qui perdent une part de leur propriété, puisque les esclaves leur appartenaient.
Alors là, ça va être une réponse...
Mathieu prend sa calculette, et donc moins les coûts de fonctionnement de l'armée...
Moi, je vais dire... Ah non, c'est le budget total de la France ?
Non, le budget de la dépense publique. Combien de pourcentage de la dépense publique ?
Moi, je dis 15%.
15% pour vous.
15%.
10%.
2,1.
2,1, c'est Olivier Poulsen, parce que c'était 7%.
C'est quand même pas mal d'argent.
Mais oui, mais alors, non.
Bah, ça a renforcé surtout la fortune des propriétaires. Hein.
Eh bien, bravo, Olivier. Je crois qu'Olivier mène la danse. C'est
vous
énorme.
Êtes toujours en tête, Olivier. Ouais. Et oui, bravo.
Et notre spécial Top Gun s'achève sur cette victoire poulsienne. Stéphane, est-ce que vous allez courir voir Top Gun Maverick en salle demain? Je vous rappelle que c'est un film Europe 1. Vous ne le savez pas, mais une partie de votre salaire a été ponctionnée pour le produire.
Bah oui, moi je l'ai déjà vu, évidemment, un film Europe 1.
Il y avait l'avant-première, on s'est régalé.
Oui.
Ces effets spéciaux incroyables. La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain, Stéphane, et vous connaissez déjà le programme.
On réunit trois dames farouchement affranchies qui ont défié leur époque. La mal-aimée des Médicis, Bianca Capello, la danseuse soviétique Maya Plissetskaya, qui a défié le régime toute sa vie.
Et Asha Mohamed, une chauffeuse de taxi dans un pays qui n'aime pas les femmes au volant, la Somalie. Je vous raconte son histoire demain.
Au rendez-vous est pris. Alors à demain Mathieu, à demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.